cours de philosophie critique par le père Marie-Dominique Philippe à Saint-Jaudard le 8 janvier 1993.
Cours de critique. Alors, je rappelle brièvement que la critique ne peut jamais être première. C'est important pour nous à cause de la position de Kant. Faut jamais oublier ça. Et que la position de Kant est une position qui est, même si elle est passée, elle revient tout le temps. Et c'est très curieux. Elle revient en fonction de l'influence des sciences. Et on croit qu'il faut critiquer les sciences avant de faire de la philosophie. Ce qui est impossible.
Service de la science est au service de l'homme. Alors, il faut
existe indépendamment de la critique. Et il faut comprendre que la philosophie existe indépendamment de la critique. Le jugement d'existence est au-delà de la critique. Il est naturel. Naturellement, l'homme découvre que à côté de lui, il y a un individu qui existe comme lui. Il ne faut pas être très, très, très critique pour savoir ça. Il suffit tout simplement, quand vous donnez la main à quelqu'un, vous essayez, est-ce que tu existes ? Je ne te donne la main que si tu existes. Donc, vous le faites spontanément. Heureusement. Comment vous lui donnez plus la main ? L'affectivité me lie à certains. Indépendamment de la critique, il y a ce contact direct, immédiat. Alors, on dira, c'est naïf. Ben oui, c'est naïf. Qu'est-ce que ça veut dire, naïf ? Est-ce que l'humain est naïf ? Grâce à Dieu. Parce qu'il est antérieur à la science. Et donc, il touche la réalité. C'est la science qui n'est plus naïve et qui ne touche plus la réalité. Et qui se construit. Et la critique sera là pour rappeler ça. La critique doit me maintenir réaliste. Elle est au service du réalisme. Pour maintenir que l'intelligence est une puissance naturelle de mon âme spirituelle. Comme la volonté. Il y a quelque chose de naturel quand je pense. Penser, c'est quelque chose de naturel. La critique présupposant la connaissance va essayer de comprendre constamment comment la connaissance, du fait même qu'elle existe, transforme toujours le réel. Autrement dit, le vécu n'est pas le réel. Le vécu n'est pas le réel. Le vécu me donne un certain contact avec le réel. Mais s'il n'est pas le réel, le jour où vous confondez le vécu et le réel, vous vivez dans votre tour d'ivoire. Et plus personne ne peut vous rencontrer. Et vous jetez de la poix sur celui qui veut vous rencontrer. Parce que vous êtes bien seul à seul. Pas avec Dieu, seul avec vous-même. La critique va donc essayer de découvrir l'intentionnalité de ma vie intellectuelle et l'intentionnalité de ma vie affective. C'est ce domaine de l'intentionnalité que la critique regarde, et non pas le réel existant en premier lieu. L'intentionnalité est bien un réel, mais un réel transformé par ma manière de connaître, ma manière propre de connaître. Et je connais en abstrayant, je connais en analysant, je connais en divisant, je connais par des méthodes dialectiques ou des méthodes analogiques. Et j'essaie de comprendre les diverses manières dont l'intelligence humaine peut se développer comme intelligence humaine. Donc vous voyez, le domaine de la critique est très intéressant, mais il est toujours second. Il n'est jamais premier. Et le jour où vous mettez la critique en premier, vous tombez dans l'idéalisme. C'est l'idéalisme. C'est le néoplatonisme qui se réintroduit. Alors, on va chercher en critique quel est le fondement, quel est l'élément premier de ma connaissance. Quel est l'élément premier de ma connaissance ? C'est le premier problème critique. Je dis bien l'élément, pas le principe. L'élément. Je suis dans l'ordre du conditionnement en critique. Je ne suis pas dans l'ordre des réalités et du principe. Vous voyez, c'est une sorte de méta-psychologie. Un bon critique. la psychologie est toujours quelque chose de second et jamais première. Non, on ne bâtit rien sur la psychologie. Contrairement à ce que tous les gens croient qu'on bâtit sur la psychologie ne touche pas le rock. Elle touche du vécu. Vous tâtez le pouls. Aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Il y a du ciel. Il y a un beau soleil. On n'est pas dans le brouillard. Mais on ne construit rien sur la psychologie. On construit sur le réel. Sur la vérité. Alors, c'est très intéressant de faire le parallélisme entre la psychologie et la critique. La psychologie est constamment l'aspect réflexe de l'intentionnalité affective. Essayez de prendre n'importe quel psychologue, il est dans l'intentionnalité affective. La relecture de Janine, la relecture, c'est de l'intentionnalité. Affective. Ce n'est pas le réel. Alors, il faut faire grande attention. Parce que si je bâtis sur la relecture, je bâtis sur du sable, sur l'intentionnalité. Je ne peux bâtir que sur du roc. Vous voyez ? Jésus nous met en garde. Il parle de la maison bâtie sur le sable. Traduisons, bâti sur la relecture. Il faut être très net là-dessus. Il faut voir les choses nettement. Si on ne les voit pas nettement, on sera soi-même emporté. Parce que c'est très très puissant la psychologie aujourd'hui. La critique depuis Kant est très puissante. Elle a donné naissance. La critique a donné naissance à la psychologie. Ça c'est sûr. Et le primat de la psychologie aujourd'hui est une chose extrêmement forte. Parce qu'on croit que c'est la psychologie qui nous fait toucher le réel. Mais non, la psychologie demeure dans l'abstrait. Parce que le réel, l'humain, est fondé sur l'amour. Et la psychologie ne dit rien sur l'amour. Alors, je sais qu'il faut faire grande attention quand on affirme ça, parce que les psychologues voient rouge quand on dit ça. Alors, on doit le dire avec une dose homéopathique. Très très lentement, progressivement. On leur montre que l'amour est autre chose que le vécu de l'amour. Le vécu de l'amour, ce n'est pas l'amour. Je regrette. Celui qui aime ne vit pas du vécu de l'amour. Il ne vit pas de ses sentiments. Je ne sens rien. Mais tant mieux que vous ne sentez rien. Allez-y. C'est peut-être à ce moment-là que vous touchez le réel. Parce que tant vous restez dans votre sentiment, vous restez dans votre vécu. Et votre vécu, c'est du sable mouvant. Parce que le vécu du matin, le vécu de midi, le vécu du soir est différent. Le vécu de vos 14 ans, le vécu de vos 12 ans, le vécu de vos 2 ans sont différents que le vécu de votre actuel. Vous ne vivez pas de ce que vous avez vécu avant, parce que tout a changé, sauf vous. Voilà le réalisme, vous voyez, et la critique me permet de comprendre ce que c'est que le réalisme. Alors il y a la critique intellectuelle et la critique affective. Puisqu'il y a une connaissance artistique, il y a une connaissance spéculative, il y a une connaissance affective. Il faut critiquer toutes ces connaissances-là. Et la critique cherche quel est le fondement. Qu'est-ce qu'il y a de premier en critique? Je peux vous le dire tout de suite, c'est le concept. Connais la réalité en l'assimilant. Mais je la connais en l'assimilant et en dépassant l'assimilation. La connaissance. connaissance ne se ramène pas à l'assimilation. La connaissance implique un jugement. Et le jugement, c'est le jugement d'existence. Or, vous n'assimilez pas l'existence du caillou. Tout le monde sait que c'est pas très digestible. L'existence du caillou. Et avec l'existence du caillou, c'est l'existence de celui qui est à côté de vous. Vous n'assimilez pas l'existence de celui qui est à côté de vous. Vous ne faites pas comme le bois qui assimile le petit chat. Mais ne mettez pas un petit chat en face d'un bois, parce qu'au bout de 3 minutes, il est englouti. Évidemment, quand le petit chat est dans le bois, ce n'est plus le petit chat, c'est le petit chat dans le bois. Et si le petit chat pouvait gémirer à ce moment-là, je suis dans cette prison terrible, je suis dans le bois. Il faut voir comment ça fait. Je vais vous raconter. C'est extraordinaire la manière dans le bois. Ouh là là, il fait son repas. Il y a des gens qui se gargarisent de psychologisme et de critique. Ils ne voient que ce qu'ils sont, que ce qu'ils ont atteint, le vécu affectif, le vécu intellectuel. Il faut dépasser ça pour atteindre la réalité. Et c'est pas commode, hein. Dans le monde d'aujourd'hui, c'est pas commode, c'est même très difficile. Ça demande un effort constant, puisque tout dans notre monde d'aujourd'hui nous conduit à cela. Le psychologisme et le point de vue critique. Alors nous avons essayé de comprendre progressivement le premier moment de ma vie intellectuelle, le premier moment, l'appréhension. Mon intelligence assimile. Et le second moment, l'adhésion intellectuelle, le jugement. Et c'est très important de distinguer ces deux moments. Ces deux moments sont analogues, comprenez bien, aux deux moments, donc, l'appréhension assimile, assimilation, et le jugement, adhésion. L'être à l'homme, première, to tn einein, quod quid erat esse. Dès qu'on dit quidité, pensez tout de suite à ça. Parce que la quidité, c'est saisir dans la réalité ce qu'il y a d'essentiel. C'est l'intelligible, ce qui est assimilable. Ce qui est assimilable dans le ceci est, c'est sa quidité. C'est le ceci. Dans le ceci, il y a une certaine quidité. Pourquoi ? Parce que dans le ceci, il y a une certaine détermination. Il y a la vache, il y a l'homme, il y a la table. Donc il y a une certaine assimilation. Tandis que est, l'exister est inassimilable. L'exister du caillou, il est l'exister du caillou. Alors je peux penser l'être du caillou, c'est sûr. Mais dès que je pense l'être du caillou, ce n'est plus l'exister du caillou. Vous voyez, c'est là où la critique est essentielle pour comprendre que dès qu'on connaît quelque chose, on le transpose. Et la très grande difficulté pour nous, parce qu'on vit dans un monde scientifique, donc un monde qui ne fait plus la distinction entre le vécu et la réalité. Alors nous devons nous essayer petit à petit de redécouvrir la réalité au-delà du vécu. Le vécu est excellent, puisqu'il faut bien penser, il faut bien digérer, il faut bien assimiler, c'est nécessaire, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Dépasser cela constamment, constamment. Jugement d'existence, ceci est. Après avoir vu la distinction entre ces deux actes, l'appréhension et le jugement, nous avons essayé d'adhérer ou d'analyser au plan critique qu'est-ce que c'est que le jugement. Et le jugement n'est parfaitement jugement que dans le jugement d'existence, ceci est. Dans le jugement d'existence et dans le jugement qui touche les principes propres, qui sont au terme de l'induction. Alors, nous étions partis donc du principe propre, premier, le premier que je saisis. C'est la cause exemplaire. Non, nous l'avons vu, ça. Je n'y reviens pas. S'il y avait des questions, vous les notez. La cause exemplaire qui commande toute la philosophie de l'art. La philosophie de l'art va de la cause exemplaire à la matière. La philosophie de l'art me fait comprendre la distinction première de la forme et de la matière. C'est pour ça que la philosophie de l'art est essentielle à ma vie intellectuelle. C'est ce que les scolastiques ont oublié. Et en oubliant ça, ils ont oublié la vraie distinction entre matière et forme. La distinction première de matière et forme se fait à partir d'une œuvre, l'idéa, qui est la forme par excellence. Le cheval en soi, le cheveu en soi. Miss idéal. C'est la forme en soi. Puis la matière, alors, c'est plus idéal. C'est la réalisation concrète. Bien comprendre ça. C'est quand même très important à saisir ce premier moment de ma vie intellectuelle au plan philosophique. C'est la saisie de l'idéal. Saisis la finalité, principe de finalité dans l'amour d'amitié. Ma vie humaine, de l'adgérer, est commandée par la saisie de la finalité. Mon bien humain premier, c'est l'ami, c'est l'homme. que je dois critiquer. Si je les avais pas saisis, je pourrais pas les critiquer. Et je vois que le jugement d'exil, le jugement de finalité a ceci de tout à fait particulier qui ne peut être saisi qu'à partir de l'amour. Comprenez bien la différence entre le principe de causalité exemplaire et de causalité finale. Ceci est capital. Alors, j'espère que vous l'avez bien saisi. Et la critique nous aide à mieux le saisir. Le principe de causalité finale, le principe de causalité finale a un réalisme que n'a pas le principe de causalité exemplaire. La causalité exemplaire n'existe que dans l'intelligence. Vous n'avez jamais vu la causalité exemplaire dans la réalité. Tandis que vous la voyez dans l'intelligence de l'artiste. Un artiste a tout de suite le sens de la causalité finale, de la causalité exemplaire. Tout de suite. Et un monde comme le nôtre, qui est un monde où l'art passe avant la morale. Le très grand danger, c'est la confusion entre la causalité exemplaire et la causalité finale. La causalité exemplaire, elle est parfaitement saisie chez Platon. Ça, c'est sûr. La forme en soi, le cheval en soi, le cheveu en soi. Aristote est le premier à avoir bien discerné et distingué la causalité finale de la causalité exemplaire dans l'amour d'amitié. Et grâce à l'amour d'amitié, je distingue parfaitement ce que représente la causalité exemplaire et la causalité finale. L'ami est pour moi mon bien, il n'est pas pour moi modèle. Des quantités d'amis considèrent leur ami comme modèle. Et là, ils se mettent le doigt dans l'œil. L'ami, parce que si vous le considérez comme modèle, il suffit que vous découvrez en lui une faille. Ah, c'est plus mon ami. C'est plus un modèle. Ça n'a jamais été un modèle. C'est vous qui avez projeté sur lui ça, causalité exemplaire. L'ami n'est pas modèle. Il est plus qu'un modèle. Un modèle, c'est à votre taille. Et l'ami est plus, il est votre bien. Oui, ça, c'est extrêmement important de bien comprendre. Un modèle, on le possède. On possède un modèle, on possède la cause exemplaire. Un cuisinier possède le modèle du gâteau idéal. Les grandes fêtes, c'est ce gâteau-là qui va sortir. Le pain idéal, les grandes fêtes. Mais on a un modèle, et on le possède, on peut critiquer le modèle, et on peut le critiquer indéfiniment, et on le critique tout le temps. Si on est un bon cuisinier, si on est un bon artiste, on critique tout le temps le modèle. Parce qu'il n'est jamais adéquat. Il y a telle ou telle chose. On le critique en fonction de la matière qu'on a. On le critique en fonction des instruments qu'on a. On critique tout le temps. On a le droit et on a le devoir de critiquer la cause exemplaire. Est-ce qu'on critique un ami? L'ami est mon bien. Et le bien, je ne le critique pas. Le jour où je critique le bien, je le ramène à la cause exemplaire. Vous savez, le plus grand désastre qui existe actuellement dans le monde, c'est que les hommes ne savent plus ce que c'est qu'aimer. Ils ne savent plus ce que c'est qu'aimer. Alors, ne sachant plus ce que c'est qu'aimer, pratiquement, il que l'intentionnalité est présente dans la causalité finale. Il n'y a qu'un pas à faire pour dire la causalité finale est métaphorique. Et c'est ce qui a existé, de fait, dans l'histoire du thomisme. Dans l'histoire du thomisme, très très vite, des grands thomistes, comme Jean de Saint-Thomas, n'hésitent pas de dire que la causalité finale est métaphorique. Elle est métaphorique, c'est-à-dire que c'est l'intentionnalité qui domine. Alors que la cause finale est la cause la plus réaliste qui soit. Mais elle exige le dépassement de l'amour. va vous ramener le bien commun à votre propre bien. Et vous le ramenez en le possédant. Je possède ce bien. Et c'est à moi. Et je crois que c'est des confusions constantes qu'on fait. Alors, le bien commun est complexe, puisqu'il implique à la fois d'être bien et d'être commun. Donc, s'il est commun, il doit être partagé. Il est pour tous. Et pour être partagé, intervient l'art. Parce que l'amour ne partage pas. Et parce qu'il est partagé, il se relativise. Il n'a plus le même absolu. Et pourtant, il garde cet absolu parce qu'il est bien. Alors, le bien commun est une chose très délicate à manier. Pas du tout la saisie du bien commun qui résout tout. Parce que, justement, c'est pas un principe séparé. C'est un principe immanent, le bien commun. Et dans la mesure où est un principe immanent, c'est un principe qui, par le fait même, n'est pas relatif à un seul. Il est relatif à tous. Il est donné pour tous. Donc, il est à la fois le bien et il est à la fois commun. Qui dit commun veut dire qu'il est pour tous. Et il est en même temps principe. Donc, il garde quelque chose d'être premier, puisqu'il est principe, il est bien. Mais il est le bien de tous. Et s'il est le bien de tous, il demeure immanent à tous. Et dans la mesure où il demeure immanent à tous, il n'est plus mon bien. C'est très très curieux ça. C'est pour ça que le bien commun réclame une saisie propre comme principe propre. Il y a quelque chose de sui generis qui ne peut pas se ramener à un autre principe. Et c'est un principe pratique qui finalise. Le bien commun finalise l'action politique, l'activité politique. Et l'activité politique n'est activité politique que dans la mesure où elle est finalisée par le bien commun. Là, vous voyez, là, il y a un troisième principe. Vous avez donc ces trois premiers principes qui gouvernent toute la philosophie humaine. Alors, à côté de ces principes, il y a quelque chose de second, qui n'est plus le premier principe, principe propre, puisque un principe est lié aux autres principes. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est de saisir l'arête, ce qu'il y a de propre. Est-ce que vous pourriez dire que, au point de vue artistique, vous avez le principe de la causalité matérielle, qui est toujours lié à l'œuvre, qui est d'une certaine manière le bien commun de l'œuvre, la matière. Vous avez les instruments, vous avez toute une quantité de choses secondes par rapport à ce principe premier, qui est de saisir le modèle. Et également, pour la causalité finale, vous avez aussi le point de vue des sujets. Vous avez les moyens d'atteindre cette fin. Mais ce n'est pas l'arrêt direct de la causalité finale. Donc, vous pouvez donc dire